Bonsoir. Le gouvernement de la RDC et le M23 n'ont pas signé les documents sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala, comme prévu hier à Entebbe. Les points de désaccord, c'est l'intitulé du document. Pour la délégation du gouvernement de la RDC, le document à signer doit être une simple déclaration et non pas un accord de paix tel que souhaité par le M23. Comment analyser l'échec de la signature du document attestant la fin des pourparlers de Kampala? Nous en parlons avec Christian Badibangui, le député national et un des participants aux pourparlers de Kampala. Bonsoir, honorable Christian Badibangui.
Bonsoir, ami.
Maître Jean-Baudouin Maillot, il est député national de l'opposition et porte-parole du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Bonsoir, Maître Jean-Baudouin Maillot.
Bonsoir.
Et professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et le coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, Guy Maté, et bonsoir aux auditrices du cœur.
Jacques Assungé de Fizi au Sud Kivu, il est important que la médiation ougandaise se ressaisisse en adoptant une attitude impartiale que de soutenir une partie. Je salue la position de Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement de la RDC et le M23 n'ont pas signé les documents sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala. C'était hier à Entebbe. Et pour cause, la délégation de Kinshasa ne s'est pas présentée dans la salle en la résidence du président ougandais Yoweri Museveni Kaguta. Avec nous depuis Entebbe, notre envoyé spécial Jules Ngala Wamona.
C'est le porte-parole du gouvernement ougandais, Ofwono Opondo, qui l'a annoncé ce lundi soir à la presse. Selon lui, la délégation du gouvernement congolais, bien que présente dans le palais présidentiel à Entebbe, n'a pas souhaité rencontrer la délégation du M23 et celle de la communauté internationale déjà présente dans la salle ad hoc. À la question de savoir à quand le prochain rendez-vous, M. Ofwono parle tout simplement d'une divergence. Un membre influent de la délégation gouvernementale, parlant sous anonymat, avait déjà évoqué la dite divergence devant la presse. Un problème qui, selon lui, risquait de ne pas mettre d'accord sa délégation et la facilitation. L'intitulé du document a signé « Déclaration et non pas accord », mais aussi au niveau de l'interlocuteur, l'M23, qui a déjà signé sa propre mort, selon cet officiel congolais. Jules Ngala à Entebbe en Ouganda, traduit au Capi.
Christian Badibangui, je rappelle que vous êtes député national, un des participants pour parler de Kampala. Quelle analyse faites-vous de l'échec de la signature de ces documents?
Non, je crois que vous ne pouvez pas parler ça, qualifier ça en termes d'échec. Et j'espère que vous devez représenter que la République démocratique du Congo était présente dans toutes les institutions. Donc, étant un des responsables numéro un de l'opposition, il était tout à fait normal pour remettre l'opposition au niveau des enjeux internationaux et sous-régionaux que je sois présent à Kampala. Cela étant tracé et clair, il a fallu comprendre par ce geste que toute chose étant égale par ailleurs, qu'il y a eu évolution sur terrain, qui démontre suffisamment que la déclaration du 6 novembre de M. Bissimoua donnant la possibilité à la communauté internationale de constater que les M23 est morte de sa propre mort et qu'il y a lieu qu'elle se transforme. Je ne sais pas un parti politique, c'est donc des difficultés à partir du moment qu'ils n'ont pas un arrêté ministériel de fonctionnement. Et la dimension définitive est celle de considérer qu'il fallait redéfinir la qualité présente de ce que serait le M23. Le travail fait par les institutions de Kinshasa, par la République démocratique du Congo, pour essayer de consolider la paix, a été de manière à ce qu'on arrive jusqu'au fin, au bout du processus. Donc pour arriver au bout du processus, il était question que la République, d'une manière responsable, s'engage avec toutes les institutions afin de consolider la paix. L'essentiel n'est pas de gagner la guerre ou de paraître devant en guerre, mais la réalité est que, en fin de compte, ne donnons pas la possibilité aux uns et aux autres d'essayer de manipuler le demain ou après-demain pour essayer d'affaiblir le mastodonte qui est la République démocratique du Congo, qui a le regard tourné vers la la reconstruction.
Honorable, donc, honorable, le M23 vous accuse, en fait, accuse la délégation du gouvernement congolais d'avoir voulu revenir sur les textes qui avaient déjà été approuvés par les délégations en présence des envoyés spéciaux depuis le 4 novembre 2013. Et ces textes étaient intitulés « Accord de paix entre le gouvernement de la RDC et le mouvement du 23 mars ». Et donc, il y a de cela une semaine, vous étiez engagé à signer un accord de paix avec le M23, mais c'est fait que hier, vous avez refusé de signer cet accord. Vous parlez maintenant d'une déclaration. Comment vous expliquez cette volte-face du gouvernement congolais?
Par la définition lexique de la Larousse actualisée, les mots accord et la répartition de partage des donnant-donnant à un rendez-vous où chacun se débarrasse de certaines prérogatives et le remet à quelqu'un d'autre. À partir du moment que votre père a contacté une dette à la banque, avant que la dette soit exécutée et qu'il en est mort, je ne pense pas que l'héritier signera au nom de son père. Il signera au nom du processus de remplacement ou de l'héritage ou d'une manière héréditaire. Donc, je crois que juridiquement, cela est justifié. Donc, on ne peut pas nous demander que le M23, la table de négociation qui n'avait rien à donner à la République démocratique du Congo, que la République démocratique du Congo, depuis le mois de mai, avait introduit et déposé le texte final de négociation, puisse demander à ce que le M23 aille à restituer une partie des souverainetés prises sur quelques espaces territoriaux de la République démocratique du Congo. Donc, c'était impossible. Parce que nous tenons à la déclaration de M. Bissimwa d'ici novembre. Ça, ce n'est pas une déclaration des institutions de la République démocratique du Congo.
Et donc, honorable,
on constate que le M23 déclare seul qu'il cesse d'exister et ils ont déposé les armes.
Oui.
Il ne faut pas donner cela comme étant une récupération de la République démocratique du Congo. C'est un constat fait. Et par la communauté internationale et par le M23 lui-même, et que de cela, on devrait réactualiser, revisiter l'essentiel qui pouvait permettre à la communauté internationale de constater que la déclaration était la déclaration des pourparlers de Kampala qu'on pouvait conjuguer au passé.
Si j'ai bien compris, vous estimez que à travers un accord, vous serez obligé de vous faire mutuellement des concessions. Et c'est pourquoi vous refusez de signer cet accord avec l'M23 qui, selon vous, n'existe plus.
Mais oui, mais effectivement, juridiquement, dites-moi, cher ami, lorsque nous signons M23 par sa direction politique, M. Bissimwa, déclare que nous cessons d'exister, nous avons déposé les armes. Donc nous allons ressusciter M23 qui, par lui-même, déclare ne pas exister. Je ne dirais pas d'une manière anodine, de manière à ce que de considérer comme étant le triomphalisme en disant ils ont été de fait par l'armée congolaise, mais tout simplement je me dis parce qu'il fallait consolider la paix, les processus de la paix, et que la République démocratique du Congo, dans toutes ses institutions, estime que le Congo a droit à la paix, droit à la vie et droit au développement, et qu'on doit aller jusqu'au bout pour prendre à témoin la communauté internationale. Donc la République a refusé de paraître un vent en guerre.
Oui, honorable, parce que vous tenez à une déclaration, vous pensez qu'à travers une simple déclaration, vous serez en mesure de répondre à toutes les revendications du M23?
Les revendications seront aujourd'hui sans fondement à partir du moment où quelqu'un vous dit « j'ai déposé les armes, je me soumets à ce que nous trouvons un compromis ». Le compromis peut s'appeler compromis de bail, compromis de location, compromis de sous-traitance ou compromis de réintégration. Mais cela appelle à ce qu'on puisse revisiter juridiquement les textes précédents.
Alors, cela veut dire que les revendications restent sans réponse. Et cela ne constitue-t-il pas une bombe à retardement?
Non, on ne peut pas parler en termes de bombe de retardement. Tous ces messieurs s'appelleraient congolais, disent-ils. Entre guillemets, nous acceptons par bonne foi. Donc, qu'est-ce que vous direz encore que lorsqu'il y a des revendications qui ont été faites sur base des armes, sur base des tueries, des violations massives et des violations des droits de l'homme et qui ont endeuillé notre peuple en laissant les familles orphelines de père ou de mère ou des enfants dispersés, en détruisant l'économie provinciale de deux provinces du Nord et du Sud Kivu, vous pensez que cela, même au niveau de la communauté internationale ou de la justice internationale restera impuni. D'après vous, il faudrait qu'on considère les revendications des M23, oublier que la République démocratique du Congo, dans toutes ses diversités constitutionnelles et institutionnelles, puisse accepter à ce qu'il n'y a que des revendications qui pèsent et que la présence de la force neutre de la communauté internationale n'a rien d'être que de faire la balade de tourisme. Donc je pense que, monsieur, soyons sérieux, sachons garder le pied sur terre. La République démocratique du Congo a payé le prix fort, et qu'il est temps que les gens comprennent que s'ils sont congolais, effectivement, ils vont se mettre dans le rang pour assurer le développement de leur pays.
Merci, maître Jean-Baudouin Maillot. Vous êtes député national de l'opposition et porte-parole du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Comment vous analysez cet échec des Kampala?
Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord saluer mon collègue, ami et frère Christian Badibangui, ainsi que le professeur Bob. En même temps, je voudrais corriger, je ne suis plus porte-parole de l'UNC. Le parti m'a accordé d'autres charges. Je suis le secrétaire interfédéral du parti pour la ville de Kinshasa, le patron du parti dans la ville. Ceci dit, j'aimerais dire ceci, échec, bon, peut-être vu par vous, mais vu par nous, c'est pas un échec, parce que l'opinion congolaise dans son ensemble n'est pas d'accord avec la signature d'un accord avec le M23. Dès lors que les représentants du gouvernement de la République qui sont allés à Kampala n'ont pas signé un accord, ça ne peut pas être perçu comme un échec vu par nous, la population congolaise. Ce serait un échec si jamais un jour le gouvernement venait justement à signer un accord. Parce que, oui.
Maître Maillot, oui, je rappelle que vous êtes juriste. Quand est-ce qu'on peut signer une déclaration et quand est-ce qu'on peut signer un accord?
Un accord est un document signé par au moins deux parties qui comporte des engagements, des obligations. L'une des parties a des devoirs qu'il doit exécuter, tout comme l'autre. Autant ils ont des droits l'une vis-à-vis de l'autre. Une déclaration, c'est une incantation, c'est une annonce sans engagement. Alors, là où nous avons du mal à comprendre, c'est lorsqu'en même temps on nous dit on ne signe pas l'accord, mais les mêmes points contenus dans cet accord sont reportés dans un document titré déclaration. C'est là que ça devient difficile. La déclaration doit rester une déclaration, c'est-à-dire ne pas comporter d'obligation. Ici, le peuple congolais considère, et c'est vrai, que pour une fois, nos forces armées ont défait, disons les choses telles qu'elles sont, les M23 qui ont bénéficier du soutien de toutes parts. Ils ont été défaits. Nous avons vu l'importance de l'armement dont ils disposaient. Alors, c'est terminé. Si ce sont des Congolais qui ont des prétentions, mais qu'ils fassent comme tout le monde, mon ami Christian Badibangui, pour devenir député, il s'est soumis aux élections. Il a été élu. Qui se soumettent aux élections. S'ils veulent devenir des militaires, des officiers, mais il y a un cursus. On entre dans l'école de formation, on va dans des écoles de formation des officiers, des écoles supérieures militaires, comme mon ami le général Etumba, et on devient un jour général. Donc ce n'est pas par le jeu d'accord. Il faut d'abord avoir tué, avoir pillé pour prétendre devenir finalement général ou ministre dans un gouvernement. Ça, le peuple congolais a dit définitivement non. Il faut suivre le cursus normal. Et ici, c'est le lieu de féliciter encore une fois de plus nos FRDC, le général Olenga, le général Mamadou et tous les colonels plutôt. Et pourquoi ne viendrait-il
pas général?
Il est devenu général. Voilà, je m'incline. Salut mon général. Vous avez les félicitations du peuple congolais. pour avoir gagné une... On a toujours dit que notre armée ne gagne pas de guerre. Voilà au moins une fois, nous avons gagné. Et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU l'a reconnu que c'était d'abord la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo.
Et donc, vous pensez qu'on ne doit pas se limiter au concept de déclaration? On doit aussi adapter, n'est-ce pas, les contenus de ces textes-là et au concept?
Mais si les deux documents ne diffère que par le titre, par l'intitulé, alors on n'est pas avancé. Une déclaration ne doit pas comporter d'engagement pour la République démocratique du Congo vis-à-vis des M23 qui n'existent plus d'ailleurs.
Et vous pensez que
j'ai posé la même question en justice?
J'ai posé la même question à l'honorable Christian Badibangui. Et vous pensez qu'à travers une simple déclaration, on va répondre aux desiderata du M23?
On n'a pas à répondre à leurs desiderata. C'est depuis longtemps qu'on a dit à ces messieurs, venez à la table de négociation, parlons-en, que ces messieurs-là n'ont pas voulu entendre cela de bonne oreille, ils ont tué, ils ont pillé. Maintenant qu'ils ont des faits, qu'ils sont des faits, qu'est-ce qu'on va leur reconnaître? Ce sont des Congolais, pourquoi vous voulez qu'ils aient beaucoup plus de droits que vous et moi? Alors ces messieurs-là, il leur reste seulement d'être traduits devant la justice nationale ou internationale. Parce que ils ont violé les dispositions du droit humanitaire. Voilà le sort qui doit leur attendre. On ne doit pas les gratifier par un accord, encore moins par une déclaration contenant des accords.
Merci, professeur Bob Kabamba. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Le fait que le gouvernement n'a pas signé les documents hier en TB, c'est une victoire pour la délégation congolaise.
Bonjour, bonsoir Monsieur Erong et bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir et bonsoir aussi aux auditeurs et auditrices. Il faut faire un petit rappel hein, quand on veut vraiment comprendre ce qui se passe à Kampala. Nous savons tous que le Kampala est le résultat justement des rapports de force qui ont eu lieu au moment où le M23 a pris la ville de Goma. C'est-à-dire avec les rapports de force qu'il y avait, M23 plus Ouganda plus Rwanda, avaient plus de poids pour pouvoir peser sur un agenda politique et ont imposé un processus de négociation. Et lorsque l'on a un processus de négociation, en fait, le processus de négociation aboutit toujours à ce qu'on appelle un ajustement juridique. Et cet ajustement juridique se traduit généralement par un accord ou un traité qui lie les deux parties dans des conditions bien, bien particulières qui sont définies dans ce texte. Alors, suite à l'évolution que l'on a constatée sur le terrain, du fait que les négociations ont été imposées du fait de la guerre qu'il y avait entre les deux parties, mais maintenant que la guerre est terminée par la victoire de l'une des deux parties, c'est tout à fait normal que la partie la plus forte actuellement ne souhaite plus revenir à un accord, puisque un accord va lier deux parties dans un contexte bien particulier, mais à une simple déclaration qui n'a aucune valeur contraignante. C'est là où il faut être tout à fait clair avec les auditeurs. Quand on parle de négociation, ça veut dire que nous devons nous engager par rapport à un objectif bien précis. Mais comme on n'est plus dans un rapport de force tel qu'il existait au moment où nous avons décidé des négociations, donc le fait d'avoir un accord, ça n'a plus lieu d'être et on s'en est traduit généralement, effectivement, par une simple déclaration, qui constate en fait, le fait que nous avons eu les uns, le M23 a pris les armes pour pouvoir amener des revendications politiques. Maintenant, ils ne sont pas arrivés à faire aboutir les revendications politiques par les armes. Cela veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un accord. Parce que si on revient dans le cadre de l'ordre juridique de manière très claire, là, on demandera plutôt à M23 de pouvoir devenir un mouvement politique, un parti politique. Et dans le cadre d'un parti politique, avec la procédure et la loi qui existe, pour valider et agréer un parti politique, au sein des partis politiques, maintenant, ils vont commencer à revendiquer et à porter des revendications, comme cela a été le cas avec le CNDP à une autre époque. Donc ici, je pense que la position du gouvernement congolais est tout à fait juste et tout à fait claire, c'est que l'accord n'a pas lieu d'être, puisque tout simplement, il n'y a pas, il n'y a plus l'enjeu qui était celui qui a dicté ces négociations. Et c'est pour ça que je pense que le ministre des Affaires étrangères n'a pas tenu même à participer aux discussions, puisqu'il n'y a plus de discussion par rapport à ce qui était avant. Même lorsque le 1.23 parle qu'il y avait déjà un texte qui avait été accepté bien avant par toutes les parties, c'est tout à fait normal parce que tout simplement, on était dans un rapport de force différent que celui que l'on a actuellement. Et de ce fait, en ayant plus ces rapports de force, et donc le gouvernement congolais, à juste titre, demande à ce que ce soit simplement une simple déclaration de fait et qui sanctionne effectivement le fait que le M23 a déposé les armes. Et si le M23 a des revendications politiques, il n'a qu'à les porter, bien sûr, il n'a qu'à les porter sur le terrain politique, de manière comme les autres partis, comme l'UNC, l'UDPS, le PRD, MFR, etc., qui puissent mener le débat de cette façon-là. Je pense, voilà ce que l'on peut dire par rapport à ce qui s'est passé à Kampala.
Oui, professeur, vous avez évoqué les rapports des forces qui sont modifiés sur le terrain, et c'est une évidence. Mais pourquoi, à votre avis, la facilitation ougandaise semble ne pas tenir compte de cette nouvelle donne?
Il est tout à fait normal que la facilitation reste dans son rôle. C'est-à-dire que la facilitation, telle qu'elle a été définie, c'est d'arriver à ce qu'il puisse aussi tenir compte des revendications de l'autre partie, même si l'autre partie est affaiblie. Mais il faut aussi savoir que la facilitation n'est pas toujours neutre. Il ne faut pas penser que la facilitation est toujours neutre parce que quand on est facilitateur ou médiateur ou négociateur, on est neutre. Non, on peut être facilitateur et prendre parti pour l'une des parties, pour simplement si on estime que les revendications de l'une des parties sont légitimes. Et je pense que la facilitation ougandaise dans ce contexte a voulu aller jusqu'au bout de la logique qui était la sienne, c'est-à-dire arriver à ce qu'il puisse y avoir un compromis entre les deux parties pour finalement mettre fin de manière définitive à ces revendications et en même temps à cette guerre qui se vit encore une fois dans la région du Kivu.
Oui, professeur, on a souvent reproché à cette facilitation d'être complaisante vis-à-vis de la rébellion. Ceci ne serait-il pas parmi les facteurs, n'est-ce pas, qui expliquent l'échec d'hier à Entebbe?
Non, je ne pense pas que l'échec d'hier soit le fait de la facilitation. C'est beaucoup, vraiment plus le fait des rapports de force qui changent. Et le fait que quand les rapports de force changent, la facilitation n'a plus beaucoup de rôle, au fait. La facilitation ne fait que constater que ça ne va pas, puisque l'une des parties est devenue plus forte que l'autre, et donc est en mesure d'imposer son point de vue. Et à la facilitation, elle ne peut que constater ce fait que l'une des parties est devenue faible. Généralement, en technique de négociation, ce qui se passe lorsque l'on a cette histoire de déséquilibre entre les deux parties, pour qu'une partie puisse arriver à imposer son point de vue, on essaie justement de relever la position de la partie la plus faible pour essayer quand même d'arriver à l'objectif final qui est l'accord ou la déclaration telle que voulue par le gouvernement congolais. Et donc, je pense que la facilitation est beaucoup plus dans son rôle d'essayer par tous les moyens à ce qu'il puisse sortir de ces discussions, il puisse sortir quelque chose qui sanctionne, en fait, la fin de la guerre et la mise en place d'un autre processus qui va vers la normalisation de la vie politique militaire dans la région des Grands Lacs et aussi dans la région du Nord Kivu qui a beaucoup souffert de toute cette guerre.
Merci. Honorable Christian Badibangi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au Sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu au Sud Kivu. S'engager à signer un quelconque document de paix avec le M23, ce serait inutile et de surcroît une perte de temps. Je pense que le véritable accord de paix serait celui que le gouvernement congolais signerait conjointement avec le Rwanda et l'Ouganda. Dans le fond, la guerre du Nord Kivu n'était pas, ou du moins n'est pas, une guerre de M23 contre le FRDC, mais plutôt une guerre de la coalition militaire ougando-rwandaise face à la RDC.
Honorable, selon cet auditeur, le véritable accord de paix serait celui que le gouvernement congolais signerait conjointement avec le Rwanda et l'Ouganda.
Oui, je crois qu'en partie, je ne peux pas faire parler mon état d'âme, mais je lui donne en partie raison, n'étant pas le chef de délégation de la République démocratique du Congo assez pour parler, je prends autant une attitude de réserve, mais je partage entièrement son point de vue. Et que le fait que nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba avec tous les pays frontaliers, le Rwanda étant signataire et l'Ouganda de même, Et c'est ce document qui est devenu une contrainte pour les deux pays d'une manière légale à travers le monde pour qu'ils le respectent. Mais d'une manière spécifique et particulière, je partage son point de vue, mais étant au four et au moulin, cela pourrait créer certaines susceptibilités. Je lui donnerai l'entièreté de la réponse complète à la fin lorsque nous aurons clôturé le processus de paix.
Honorable, en fait, c'est pas la première fois que l'on accuse la facilitation ougandaise de vouloir imposer un texte à la délégation de la RDC. Et maintenant que les rapports de force se modifient sur le terrain en faveur de la RDC, est-ce que vous, qui faites partie, n'est-ce pas, de la délégation de la RDC, continuez-vous à croire à Kampala?
Mais je crois que je n'entre pas dans des considérations de type politique pour commencer de jeter le fleur au président de la République, Joseph Kabila. Mais néanmoins, ici, le président Kabila et son gouvernement ont été accompagnés par l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi moi j'appelle ça la délégation de la République démocratique du Congo, où étaient présentes toutes les institutions. Il n'y a pas eu de l'opposition ou du pouvoir dans cette démarche. Tout le peuple congolais, la société civile, réclamait le respect de la souveraineté du pays. Donc cela étant clairement, est-ce que nous pouvons à ce stade commencer à dire non, la souveraineté du pays, la balkanisation dont nous sommes victimes, la manipulation et les traitements de déstabilisation de la République démocratique du Congo ne concerneraient que la majorité? Non, c'est une question qui touche aux soucis à l'ensemble de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous participons, nous jetons aussi des fleurs à la société civile du Nord Kivu. Si vous n'allez pas dire qu'elle est devenue politique, elle participe pour faire respecter les frontières territoriales héritées de la colonisation que la République démocratique du Congo est bénéficiaire.
Honorable...
C'est dans ce cadre que l'opposition sérieuse, qui a les pieds sur terre et qui estimerait aimer la République, agirait comme est en train d'agir mon collègue Maillot, sur l'appréciation de cette question où il n'y a pas de couleur politique. Évitons les couleurs politiques pour sauver la République. Évitons de culpabiliser une institution de la République. Prenons la responsabilité en tant que Congolais, défendons notre territoire. Nous avons des problèmes spécifiques à l'interne, nous pouvons les résoudre, mais protégeons la maison commune.
Honorable, la RDC est encore à Kampala par conviction ou parce qu'elle est obligée d'être là?
Oui, par conviction, tout simplement, je prends beaucoup de réserves, je risque d'être taxé de la personne qui roule pour les comptes de la majorité. Mais je vous dis sincèrement, lorsque nous avons décrété les dialogues comme mode de gestion, les concertations, tels qu'ils l'ont fait, bien que je n'ai pas participé, je me dis, dans une démocratie, il faut encourager les dialogues, il faut encourager les concertations. Et que le monsieur de M23 se dise « Congolais » entre guillemets, je ne remets pas en cause, mais je me dis tout simplement pourquoi nous devons abandonner une partie des Congolais, allons avec le processus jusqu'au bout. C'est là où je n'épouse pas une partie, j'épouse entièrement les 60% de l'intervention de M. Bob, mais de considérer que tout doit être réglé politiquement comme si la démocratie était assise dans notre pays et que les puissances occidentales, les puissances extérieures et d'autres États voisins aideraient la République de Mauritanie du Congo de considérer une démocratie.
Merci, honorable.
Émergente. Allô?
Oui, je vais vous redonner la parole, honorable. Maître Jean-Baudouin Maillot, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu, au sud de
Bukagoma, depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu. À mon avis, je ne vois plus l'obligation pour le gouvernement congolais d'attendre un quelconque accord avec les M23. Cela ferait penser d'ailleurs que les M23 ont cessé volontairement les feux, et n'ont pas été contraints ou n'ont pas été vaincus, et qu'il faut alors actuellement s'entendre sur les obligations de chaque parti, les obligations pour le gouvernement et les obligations pour les M23. Mais que peut-on négocier avec un vaincu? Est-ce un accord de paix ou un accord de cesser les feux? Je pense qu'actuellement le temps est révolu. Que le gouvernement ne donne pas l'occasion actuellement au M23 de décrocher certaines faveurs auprès de lui. Celui qui a violé ta fille ou qui a pillé ta boutique, as-tu à t'entendre avec lui? Savez-vous finalement ce que va et vient à Kampala pour nos délégués coûte à la RDC? Qu'on utilise plutôt cet argent pour reconstruire ces entités détruites par ces indisciplinés, et ce temps, on peut l'utiliser pour réfléchir sur le développement de la RDC.
Oui. Oui, Maître Bayo, vous l'avez évoqué, mais le fait de dire que qu'on fait table rase, n'est-ce pas, sur les revendications du M23, n'est-ce pas qu'on est en train de créer les conditions d'une nouvelle contestation, d'une nouvelle rébellion, parce qu'on dit les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets.
Mon cher ami, imaginez-vous que toutes les communautés qui composent la République démocratique du Congo choisissent la guerre comme mode d'expression ou de revendication. Que va-t-il encore rester de ces pays? On ne peut pas encourager ça. Maintenant que les M23 sont vaincus, personne n'interdit aux M23 de venir faire valoir leurs prétentions devant tout le monde. Vous savez que nous disons que les concertations qu'il y a eu ici il y a un temps, c'est une bonne chose. Mais nous disons qu'elles n'ont pas été conformes à la résolution 2098. Nous continuons à réclamer le vrai dialogue. Nous pensons que c'est là le cadre pour ces frères de M23 de venir pour poser leurs problèmes, présenter leurs revendications. Mais si tout le monde devait recourir à la guerre, ça n'irait pas. D'autant plus que, comme quelqu'un l'a dit quelque part, à la vérité, ce sont d'autres pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui nous ont fait la guerre à travers les M23. Vous avez vu l'importance de l'armement qu'on nous a montré à la télévision. Je ne vois pas comment les M23, les Congolais, n'importe quel groupe congolais, je ne vois pas comment on peut acquérir un tel matériel de guerre, un tel armement. C'est fourni par des puissances entières. Maintenant que le Rwanda et l'Ouganda, par leur marionnette, les M23, ont été défaits, je crois que nous devons continuer, nous ici, dans l'élan de soutien à nos FRDC, en même temps que la formation des brigades doit se poursuivre. Et nous devons aussi dire merci à la brigade spéciale de la MONUSCO, qui a fait son travail. Les Congolais, nous sommes étonnés de voir la communauté internationale chercher à nous imposer la signature d'un accord avec les M23. Et si demain on n'avait pas l'accord, on aurait peut-être une déclaration comportant des accords à l'intérieur. Cette obstination, nous ne la comprenons pas, parce que il y a aussi des FDLR, il y a des Nalu, il y a des rebelles de Burundi, tout le monde a ses rebelles. Pourquoi s'acharne-t-on seulement sur les rebelles congolais, du reste vaincus?
Mais vous avez dit que les rapports des forces ont changé sur le terrain en faveur des FRDC, et en fait de la RDC, et oui, ça c'est une évidence. Oui. Et avec cette nouvelle donne, la RDC n'a pas assez de marge de manœuvre pour s'assumer et dire non à Kampala, c'est-à-dire dire non à la logique qui est imposée par la facilitation.
C'est ce que le gouvernement vient de faire. Je crois que, et je suis même convaincu que le gouvernement ne signera pas cet accord. Nous voulons plutôt voir les termes de la déclaration que le gouvernement veut signer. Nous disons que même cette déclaration-là ne doit pas comporter d'engagement. Les M23 sont défaits et il leur reste seulement la possibilité, pour ceux qui ne seront pas rattrapés par la justice, de venir faire la politique comme nous tous là.
Merci.
De parler et de faire valoir ses arguments, et du choc des idées pourra jaillir la lumière dont le pays a besoin pour avancer.
Merci. Voilà. Professeur Bob Kamama, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kinshasa.
ici Georges Bimpa de Kinshasa dans la commune de Bandalungwa. Le gouvernement doit rester intransigeant et très prudent lorsqu'il s'agit de signer un accord qui met en cause la constitution du pays. C'est son rôle. Cette fois-ci, il faut éviter les erreurs du passé, notamment avec le fameux CNDP. Accord ou déclaration, ce n'est pas ça qui intéresse le peuple congolais. Ce qui est important pour nous, c'est le contenu du document qui sera éventuellement signé. Cette guerre n'est pas encore finie car les mentors du M23 n'ont rien lâché jusqu'à maintenant.
Sur votre réaction?
Oui, les documents, les mots ont leur importance, ont vraiment leur importance. Un accord lie les parties par rapport à des questions et par rapport à des enjeux clairs qui sont définis dans ce texte-là. Par contre, une déclaration ne lie pas les parties, ne fait que faire un constat. Et c'est ça toute la différence qu'il y a entre les deux concepts et les deux termes. Alors, il est évident que le fond, ce qui constitue les revendications du Rwanda et de l'Ouganda, nous les connaissons tous par rapport à la RDC, la question des ressources naturelles, et là, la question, soi-disant, des FDLR, etc. Ces questions-là restent. Mais je pense que si l'on sait effectivement qu'il y a risque qu'il puisse y avoir une nouvelle rébellion, je pense qu'il appartient du côté congolais à pouvoir avoir justement une armée suffisamment forte qui fasse répondre à toute velléité et à toute agression qui pourrait revenir d'un moment ou à un autre de l'histoire de la RDC. C'est vrai que l'on sait depuis plusieurs années que tous les deux ans, il y a toujours une nouvelle rébellion qui naît et qui se développe toujours dans la même région avec les mêmes revendications. Pourquoi? Parce que tout simplement, en face du côté de la RDC, il n'y avait pas d'armée capable de répondre à ces différentes rébellions. Alors si l'armée congolaise est maintenant en mesure de sécuriser aussi bien la frontière, les populations, les biens des personnes, je pense qu'il va y avoir vraiment une avancée majeure dans la stabilisation de toute la région. Parce que n'importe quelle rébellion qui peut naître aura en face d'elle une armée capable de réprimer et d'étouffer toute tentative de rébellion. Par ailleurs aussi, il y a aussi toute une série de dynamiques politiques qui existent, qui est hyper importante, c'est-à-dire que la dynamique politique d'institutionnalisation doit continuer pour permettre à ce qu'il puisse y avoir la possibilité des canaux d'expression politique puissent exister, ce qui veut dire que toutes les communautés, tout le monde, puissent avoir la possibilité de faire passer ces revendications.
Merci, professeur.
C'est pour ça aussi que je pense que l'organisation des élections locales, provinciales, etc., sont tout aussi un des moyens de pouvoir arriver à consolider et à stabiliser toute cette région.
Merci. Vous savez, il n'y a pas eu de signature d'un accord hier à Entebbe, en Ouganda, entre le gouvernement congolais et l'ex-rébellion du M23. Le gouvernement congolais, fort de sa victoire militaire sur ces groupes rebelles, voudrait signer une déclaration de Kampala à la place d'un accord de paix comme le propose la médiation. Mais face à l'intransigeance du facilitateur, le gouvernement a refusé de signer ces documents. Innocent Olenga pour les détails.
Outre l'intitulé du document qui, pour les gouvernements, ne doit pas être une simple question de terminologie, ces derniers souhaitent que même la forme du document laisse transparaître d'une manière claire la défaite militaire du M23. François Momba est coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba.
Vous savez, quand on dit 11 points, l'un des points, c'est la disparition du M23. Il ne faut pas que demain, après demain, il y ait une fausse lecture ou une lecture biaisée. L'M23, tel qu'ils se sont comportés, ne disparaît pas parce qu'il y a un accord à Kampala. C'est dans les 11 points. La vraie raison, ils ont été vaincus. Nous voulons que ça soit acté. Vaincus, chassés. Et ils disparaissent. Parce que ce qui apparaissait en amont, c'était la possibilité de disparaître de son propre gré. Nous appelions cela à l'époque, nous les négociateurs, autodissolution. Il n'y a pas d'autodissolution, nous les avons dissous.
Dissolution que la délégation gouvernementale voudrait coûte que les médiateurs actent. Ces médiateurs devraient se comporter, estime François Momba, comme un médecin légiste appelé à tout simplement constater la mort du M23. Toutefois, François Momba promet que Kampala finira par la signature d'un document.
On n'a plus assez de temps, donc je vous demanderai d'être concis. Christian Badibangui, je rappelle que vous êtes député national et un des participants au pourparlers de Kampala. Sur le fond, quels sont les points sur lesquels vous ne vous accordez pas avec le M23, à part l'intitulé du document et la mention dans ces documents dissolution du M23? Quels sont les autres points sur lesquels vous n'arrivez pas à vous accorder avec ce texte mouvement rebelle?
Merci, monsieur le journaliste. À ce niveau, je ne pourrai pas faire les commentaires, d'autant plus que cela reste dans le domaine du secret d'État. J'ai compris les tergiversations qu'ont eues mes co-débatteurs, qui ont fait de très bonnes analyses, mais qui ne sont pas entrés dans la vérité du fond du document. Je comprends parce que le document est resté jusqu'ici secret.
C'est quoi la vérité du document? La vérité du document?
Nous aurons constaté le document, nous aurons un débat très riche, parce que là, nous aurons à parler la carte sur table. Une partie du document ou de la vérité vient d'être un peu dite par le coordonnateur François Mwamba, mais néanmoins, nous disons, le travail n'était pas encore terminé. Nous ne pouvons pas jouer au triomphalisme, commencer à dénoncer ce que nous exigeons comme si nous réclamons cela dans la rue. Mais ce que nous devons considérer, c'est-à-dire la communauté internationale qui a demandé à la République démocratique du Congo de respecter les accords d'Addis Abeba, les domaines de négociation avec les soi-disant rebelles congolaises qui ont pris les armes fait partie de revendications de l'arsenal revendicatif de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Merci.
À ce titre-là, je ne pourrais pas entrer, monsieur le journaliste, dans les détails du document que vous me le demandez, ce qui nous a divisé, parce que nous continuons à garder espoir que nous allons démontrer à la communauté internationale que la République démocratique du Congo a besoin de consolider la paix dans ses frontières héritées de la colonie.
Merci honorable, je considère ça comme votre conclusion. Maître Jean-Baudouin Maillot, député national de l'opposition et président de l'Inter fédéral de l'UNC Kinshasa. Il y a une réaction de Marcel qui réagit depuis Kinshasa. Au lieu de distraire les Congolais dans les faux débats de la sémantique, le gouvernement devrait dire courageusement à son peuple qu'il est ou n'est pas d'accord avec les 11 points du texte qui lui est imposé. À mon avis, accord ou déclaration ne change absolument rien au texte qui visiblement récompense les M23 et leurs maîtres. Donc selon cet auditeur, c'est les M23 qui sera le plus grand bénéficiaire des documents qui sera signé à Kampala ou à Entebbe.
Si l'ami nous a bien suivis, nous avons dit que le gouvernement ne doit pas signer d'accord. C'est conforme à la volonté du peuple congolais. Deuxièmement, nous avons dit, nous sommes d'accord sur le principe de la signature d'une déclaration. Mais cette déclaration ne doit pas comporter des accords en son sein. Donc il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de faveur à réserver au M23. Ceci dit, vous avez dit, je suis de l'opposition, je félicite les FRDC, nous nous réjouissons de notre victoire, mais en même temps, je formule quand même quelques regrets. Si vous le permettez, je n'ai vu aucune autorité nationale descendre à Goma pour fêter avec nos frères de Goma.
Le gouvernement, plutôt le gouverneur de la province, disons.
Non, je parle du gouvernement central. J'ai vu le gouverneur du Nord Kivu, Monsieur Julien Paluku, seul enterrer les militaires qui sont fauchés, qui ont été fauchés sur les champs des batailles. Finalement, nous sommes tous contents de cette victoire ou qu'il y en a qui ne le sont pas. Alors, je termine en disant que cette fois-ci, le gouvernement a écouté les Congolais, c'est une bonne chose. Mais c'est depuis 2009 que nous autres, nous leur avions dit que le Rwanda n'était pas un allié fiable, qu'il ne nous avait pas écoutés. Il nous a rejoint dans cette thèse-là et voilà les effets Merci. Que ça produit. Nous sommes tous contents.
Merci. Professeur Bob Kabamba, puisque la divergence persiste, y a-t-il possibilité de les harmoniser afin de sauver le processus de Kampala?
Alors, ne nous trompons pas de débat. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau interne et le niveau régional. Je pense qu'au niveau interne, tous ceux qui pensent prendre les armes pour pouvoir obtenir des postes, et des postes ministériels ou des mandats électifs, je pense qu'ils en ont pour leur compte et qu'on peut espérer que dans l'avenir, et que ce sera toujours les mêmes réactions qui seront faites. Maintenant, il y a la dimension régionale qui reste. Comme la dimension régionale reste, je pense maintenant qu'il faut que la RDC et le Rwanda et les autres se mettent sur la table de manière très claire pour régler définitivement les différents litiges illégitimes ou légitimes
qui existe entre les différents pays de la région afin que nous ayons enfin la paix en RDC.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe Dialogue en Congolais qui m'a aidé à préparer cette émission. Kelly Kouté et Samuel Kachak sous la supervision de Martin Sebujangwe et Diedoné Nyangasa étaient à la technique. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon suivi des programmes sur Radio Okapi.